Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion, un nouveau numéro de votre émission littéraire. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Et en ce samedi 12 novembre 2022, au lendemain des commémorations de l'armistice de 1918, nous avons décidé d'aborder dans cette émission certains aspects de cette grande guerre. Et comme chaque année, il nous rejoint, c'est un jeune professeur d'histoire habitué du micro de Wagon Livre que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Jean-Charles Gibault.
Bonjour Yannick.
Jean-Charles Gibault, vous êtes en effet professeur d'histoire au lycée d'Avallon. On vous connaît parce que nous avons ensemble mené quelques émissions sur Napoléon. Et puis chaque année, à peu près à pareille date, nous tenons en tout cas à marquer par le rappel de certains faits historiques cette grande guerre de 14-18. Alors vous êtes aussi, Jean-Charles, à côté de votre métier d'enseignant, scénariste d'une bande dessinée en trois volumes, rassemblée sous le titre Windicta. Alors là, c'est l'histoire antique, hein, puisque l'action de cette BD nous fait revivre la bataille d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Les illustrations sont de votre camarade et complice de grand talent, Ilker Caliscan. Et l'année prochaine, Jean-Charles Gibault, alors une autre BD est annoncée, toujours à caractère historique, mais cette fois-ci consacrée à un célèbre maquis du Morvan.
Voilà, cette fois, c'est l'histoire contemporaine qui sera à l'honneur avec la résistance, la vie dans les maquis et en particulier le maquis Camille. Donc, normalement, la bande dessinée sortira le 27 mai et ce sera l'occasion pour les gens d'Avallon, les gens des alentours, de nous retrouver autour d'une présentation de cet album qui nous tient très à cœur. Je parle au nom d'Ilker aussi. Je sais qu'il est, très, très impatient de faire découvrir cet album à nos lecteurs et à des personnes qui s'intéressent à cette période.
Une bande dessinée donc à découvrir courant mai 2023. Scénario de notre invité Jean-Charles Gibault et toujours les illustrations d'Ilker Caliscan.
Toujours.
Alors Jean-Charles Gibault, vous nous avez soufflé quelques thématiques de cette grande guerre. Alors on évoque souvent la guerre dans ses côtés humains, le bilan humain, les conditions de vie dans les tranchées. Et puis vous m'avez soufflé trois thèmes que nous allons aborder aujourd'hui dans ce wagon livre, qui, je le rappelle, si on a manqué une grande partie, on retrouve l'émission en podcast sur internet sur le www.yannickpetit.fr.
Je suis moi-même très amateur de podcasts et je sais que Florent nous écoutera aussi. Hein. Je salue Florent, qui est souvent à l'écoute de l'émission.
Un de vos amis qui, hors de la Bourgogne, écoute les podcasts régulièrement.
Oui, oui, c'est un amateur d'histoire et il n'est pas en Bourgogne actuellement, mais je sais qu'il nous écoute très régulièrement.
Eh bien, cher Florent, merci de votre curiosité et de votre intérêt. Merci de votre écoute fidèle. Alors Jean-Charles Gibault, trois thématiques, les troupes coloniales, nous parlerons de la liberté de la presse et la Grande Guerre, et enfin nous parlerons de ces hommes qui ont été prisonniers, on ne parle pas beaucoup des prisonniers de la Grande Guerre.
Oui, c'est justement une particularité. Alors ils sont qualifiés par une historienne, Annette Becker, des oubliés de la Grande Guerre. Donc c'est vraiment une catégorie de population dont on ne parle jamais, et ils sont malgré tout très nombreux, puisque les chiffres sont assez approximatifs, mais on parle quand même de près de 500 000 prisonniers.
Alors, on y reviendra en fin d'émission, mais j'aimerais que nous parlions de cette force noire qui était le thème, le titre d'un livre du général Charles Mangin en 1910. Je voudrais, Jean-Charles, que l'on fasse un petit peu le point sur ces troupes coloniales venues d'Afrique du Nord ou de l'Afrique équatoriale française ou de ce qu'on appelait les vieilles colonies, la Réunion notamment. Ne les oublions pas non plus.
Non, ils font partie intégrante du conflit. Alors on est dans ce qu'on appelle la guerre totale, justement une guerre où on va utiliser toutes les ressources et toutes les forces disponibles. Et la France ainsi que la Grande-Bretagne sont les deux plus grands empires coloniaux de l'époque. Ils vont se servir évidemment de cette force pour remporter la victoire et essayer de vaincre l'adversaire.
Alors on a des unités coloniales, bon, qui au départ ne sont pas particulièrement mobilisées. Et pour quelles raisons? Alors que c'est une gigantesque, justement, force noire.
Alors, Mangin essaie, notamment à travers son livre, de convaincre l'état-major que c'est un réservoir inépuisable de chair à canon pour la future guerre qui pointe le bout de son nez dès 1910, hein, c'est l'année où il écrit ce livre. Mais l'état-major et le gouvernement n'est pas vraiment convaincu. On considère qu'on n'a pas besoin de cette force, une force d'appoint éventuellement. Mais face à l'ampleur des pertes, on sera bien obligé de faire appel à eux. Ces fameux spahis marocains, ces tirailleurs dits sénégalais, ces zouaves sont entrés dans la légende aussi des unités militaires et combattantes.
Alors, vous l'avez rappelé, Jean-Charles, évidemment, la Grande-Bretagne, tout comme la France, sont les deux principaux pays européens qui ont le plus grand empire colonial. Alors les Anglais, eux, ont sollicité des citoyens de leur dominion, bon, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et aussi l'Union sud-africaine. L'Allemagne avait quand même quelques colonies en Afrique. Mais alors l'Allemagne, pour elle, les indigènes n'ont pas à être intégrés à une guerre finalement de l'homme blanc en Europe. C'est un peu cela où il faut nuancer.
Oui, c'est un peu cela. D'ailleurs, ils se moquent ouvertement des combattants noirs ou indigènes de l'armée française, en considérant qu'ils n'ont rien à faire sur un champ de bataille européen. Et pour nuancer un petit peu le propos, ils perdent aussi très rapidement une partie de leur colonie africaine, notamment le Togo et le Cameroun, qui va être un terrain de guerre très important aussi. Donc ils ne pourront plus utiliser cette force malgré tout, mais c'est vrai qu'ils considèrent que ces combattants-là n'ont rien à faire dans leurs unités.
Il faut dire aussi qu'au départ, on était parti avec l'idée d'une guerre courte.
Exactement, l'ampleur des pertes et la durée du combat va automatiquement faire mettre en avant ces troupes qui, au départ, n'étaient pas prévues sur les champs de bataille. Alors, on parlait du Royaume-Uni qui va utiliser quand même près de 2,5 millions de troupes indigènes. En France, les chiffres sont... On ne va pas multiplier les chiffres, mais pour donner quand même une idée de l'ampleur de cette force utilisée, 580 000 combattants, quand même indigènes, et 340 000 travailleurs, puisqu'il ne faut pas oublier non plus ceux qui vont travailler dans les usines d'armement pour remplacer les combattants qui sont au front. Et c'est quand même une quantité d'hommes non négligeable.
Donc il faut bien imaginer des hommes qui viennent donc d'Afrique du Nord, de l'Afrique occidentale française, de Madagascar, de l'Indochine aussi, ne l'oublions pas, ces fameux vieilles colonies, les Antilles, la Réunion, puis un petit peu dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, il y a eu des Kanaks, des Mélanésiens, et puis quelques Tahitiens également.
Exactement, alors ils ne sont pas utilisés au début de la guerre, vous l'avez dit, il faut attendre un petit peu de temps pour les voir véritablement sur les champs de bataille. Ils sont présents à Verdun, ces combattants indigènes, et particulièrement pour la bataille... pour les batailles très très meurtrières, hein, on va les retrouver notamment au chemin des Dames. Ils seront envoyés, notamment les tirailleurs sénégalais, à l'assaut de ce fameux tristement célèbre, plateau escarpé. Et sur les 16 000 tirailleurs, la moitié seront décimés après cette fameuse bataille. Donc ils sont présents et ils vont accomplir leur devoir avec vaillance et courage.
Alors à ce sujet, justement, Jean-Charles, nous allons écouter un document sonore, c'est un tirailleur sénégalais. Le document est court, mais il a une forte valeur. Il raconte la bataille de Verdun et il s'appelle Neruchiko Rawalé.
À la bataille de Verdun, on avait tout d'ailleurs, il était tous les empereurs de l'Allemagne, ils sont là. Le Guillon, son premier fils, ils sont tous là. C'est là qu'on avait tamponné très fort. Alors, on a vu des fois avec, ils nous bombardaient pendant 24 heures assez vite, et puis en la montant en l'assaut, quand on monte en l'assaut, il n'y a rien à faire. Et la voix que les toujours de travailleurs sénégalais s'agissent.
Alors, effectivement, Jean-Charles, ce témoignage montre des hommes venus de pays exotiques qui devaient tout de même se demander ce qu'ils faisaient en France dans des conditions... guerrière dramatique et en plus un climat qui était très loin de ressembler à le leur.
Ah, le changement est radical, en effet, c'est un dépaysement total pour ces soldats coloniaux qui découvrent parfois avec surprise, parfois avec désespoir, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi parfois des enrôlements de force, il ne faut pas l'oublier. Ils sont quand même relativement bien accueillis par la population métropolitaine qui les acclame, qui voit en eux un soutien moral, un soutien physique pour les combattants, dans les usines d'armement. Mais c'est vrai que c'est un dépaysement total et certains témoigneront effectivement de ce changement incroyable auquel ils participent et aussi ces conditions de guerre qui évidemment n'étaient pas envisageables au départ.
Alors on peut écouter aussi un autre document sonore, c'est une femme qui s'appelle Publicie Ledé et elle raconte dans ce document, bref, une fois de plus, le passage des Touaregs dans son village.
On a dû aller avec des faucilles pour couper l'herbe dedans parce que les Allemands ils disaient que les Noirs avaient couteau coupé cabèche, enfin... S'ils avaient vu, avant qu'il n'arrive au mois de septembre, il est passé des spahis, je crois, des Touaregs, de je ne sais pas quoi, avec des petits soldats arabes, avec des petits chevaux arabes. Et alors, il y avait toute une famille, le père, la mère, et puis le fils. Et puis le père, il montrait tout un chapelet d'oreilles qu'il avait, parce qu'il avait coupé cabèche, boche. Ils ont posé une heure ou deux dans le village.
Alors Jean-Charles, ces troupes coloniales viennent en renfort sur différents fronts. Hein, ça peut être effectivement sur les fronts de l'Est de la France. Mais puis bon, le front de la Seconde Guerre mondiale, il y a d'autres lieux d'opération. Il y a l'Orient, etc. Mais finalement, lors de l'armistice, est-ce qu'il y a eu une reconnaissance particulière de l'Empire français à l'égard de, j'utilise avec précaution et je mets des guillemets, à l'égard de ces indigènes qui ont combattu?
Pas vraiment. D'ailleurs, si l'effort de guerre des troupes coloniales n'a pas bouleversé le sort de la guerre, en revanche, l'impôt du sang payé par ces troupes, par ces coloniaux, va faire naître et faire germer certains sentiments anti-métropolitains et surtout certaines revendications politiques, voire d'indépendance. C'est les germes de l'indépendance naissent après le premier conflit mondial. Pour ce qui est de Lyon, je tiens aussi à préciser que les traces de ces troupes coloniales existent, puisque notamment à Cravant, moi que je connais bien, qui était un ancien hôpital militaire pendant cette grande guerre, de juin 1918 à novembre 1919, on a beaucoup de soldats indigènes qui sont passés parmi ces blessés, et certains n'ont jamais été rapatriés, puisque leur corps n'a jamais été demandé. Et il y a 50 tombes dans le carré militaire du cimetière de Cravant, dont deux Ivoiriens et un Soudanais, qui prouvent que les traces de leur passage existent toujours. Il faut être un peu attentif, observer un petit peu ces monuments, ces cimetières, et on voit que les troupes coloniales étaient présentes sur l'ensemble de notre territoire.
Autre document sonore que je propose de découvrir, c'est M. Cocotier, qui a quitté sa Guyane, donc pendant la Première Guerre mondiale, pour se retrouver sur le front d'Orient.
À l'Orient, c'était dur, mais c'était moins dur quand même, je vous dirais, sur le front français. Oui, ça tombait moins. Parce que sur le front français, on battait, il y avait des tranchées, des gros obus. Tandis qu'en Orient, on faisait la guerre dans des trous, vous voyez, dans des abris individuels. C'était la guerre de montagne. La guerre d'abri, on arrivait, un renfort arrivait, pas de tranchées, et puis alors là, on lançait des crapouillots à ce moment-là, qui n'étaient pas des obus. Ça montait et arrivait à une certaine hauteur, ça s'éclatait, et ça tombait sur tout le monde. Alors là, il y avait le 75 canon de montagne, c'était un canon très dangereux. Je me rappelle en 1916, du côté même de Monastir, le 75 tapait tellement rapidement que lorsque nous avions eu affaire à des Bulgares, alors là, c'est l'âme à la bretelle, on les mettait en retraite. Et il arrivait ceci, qu'on avançait tellement parfois que à peine on n'avait pas même le temps d'envoyer fusée pour faire avancer le tir. Et vous savez, malheureusement, le 75 tombait sur nous. Et ça a tué beaucoup de Français de nous.
À l'instant, c'était donc Monsieur Cocotier qui a quitté sa Guyane et qui a combattu sur le front d'Orient, un témoignage émouvant. Jean-Charles, dans le programme de l'histoire, est-ce qu'on fait une place à ces soldats venus de l'Empire ?
Alors, la place est assez modeste, malheureusement. Il mériterait une plus grande. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que cette émission aussi est intéressante, puisqu'on reprend des thématiques de la Grande Guerre qui ne sont pas forcément évoquées, voire très peu évoquées dans les manuels scolaires. On les retrouve, je dirais, par l'intermédiaire de la guerre totale, où justement ils font partie de ces ressources de l'Empire, des empires coloniaux qui sont utilisés, mais malheureusement, il n'y a pas une thématique précise sur cette question-là.
Alors, après la première pause musicale que nous allons proposer, nous parlerons de la presse pendant la Grande Guerre, de la censure, du bourrage de crâne également. Et puis je pense que là, la transition est trouvée avec cette chanson de Craon qui a été créée en 1915, qui d'ailleurs au départ se transmettait clandestinement parmi les soldats dans les tranchées. Alors, ça dépend de l'endroit où on la chantait, mais par exemple sur le site de la Meuse, elle a le nom « La chanson de Verdun » ou « La chanson de la Meuse ». En tout cas, les autorités avaient tenté d'empêcher cette chanson de circuler, la chanson de Craon, qui sera d'ailleurs censurée et interdite de diffusion jusqu'en, Jean-Charles, vous rendez-vous compte, 1974.
C'est incroyable.
Nous l'écoutons dans notre wagon-livre spécial Première Guerre mondiale avec notre invité Jean-Charles Gibault. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radio.
Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Mais sans tambour et sans trompette, on s'en va là-bas en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous des condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, nos pauvres remplaçants vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous des condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués devraient bien monter aux tranchées pour défendre leurs biens. Car nous, on n'a rien, nous autres, les pauvres puritains.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Cher Jean-Charles Gibault, professeur d'histoire, scénariste également de bande dessinée historique illustrée par Ilker Caliscan. Jean-Charles Gibault, nous sommes bien loin de l'Antiquité et de la bataille d'Alésia qui est au cœur de la trilogie Windicta que vous avez fait paraître il y a 3 ans maintenant.
2018 déjà.
2018. Revenons à notre Première Guerre mondiale et à la presse française pendant la guerre. Alors, il est bien évident qu'il y a eu de mauvais souvenirs. J'ai noté par exemple qu'en 1870, au moment de la guerre contre les Prussiens, la presse française et surtout le journal Le Temps avaient relayé certaines orientations stratégiques de MacMahon et l'état-major prussien avait d'ailleurs modifié ses plans. Alors, ce mauvais souvenir d'une trop grande liberté de la presse pendant une guerre est revenu à la mémoire de l'état-major français qui, comment l'état-major met-il un peu la presse au pas ? On ne peut pas dire non plus qu'on impose, mais on lui demande de faire preuve de certains devoirs patriotiques à sa manière. Alors ça se passe comment, Jean-Charles ?
Alors d'abord, vous avez totalement raison de citer la guerre de 1870, puisque ce conflit et cette défaite désastreuse est dans les mémoires et dans les têtes de tout le monde. Hein. Donc déjà, ça c'est une première chose. L'exemple que vous avez choisi est particulièrement intéressant. Effectivement, il s'agit des mouvements de troupes de MacMahon qui avaient été relayés par la presse et qui avaient permis aux troupes allemandes, d'état-major allemand, d'anticiper ce mouvement en direction de Metz pour libérer les troupes de Bazaine. Donc, bien sûr, on ne veut certainement pas rééditer les mêmes erreurs, effectivement. Vous l'avez dit, la censure, la propagande va s'installer de façon... Sans autorisation, j'ai envie de dire, du gouvernement. Ça se fait de manière pernicieuse. En fait, la presse, les grands journaux français sont emportés par la vague patriotique de ce début du conflit.
Que l'on pense court, toujours.
Voilà, exactement. Et en fait, on se dit qu'après tout, pour quelques semaines, la liberté de la presse peut bien être mise de côté. Ça va durer... Allez, ce sera très court et on pourra ensuite reprendre les journaux comme ils étaient précédemment. Mais effectivement, ce mot d'ordre-là d'une guerre courte, qui est partagé par tout le monde, hein, que ce soit les militaires, les politiques, ainsi que la population, va permettre de lancer un petit peu justement cette presse dans des thématiques qui sont un peu contre nature, puisque là, on va déformer la réalité, faire de la désinformation, voire du bourrage de crâne et de la propagande.
Alors le but, c'est aussi d'entretenir le moral des civils et des soldats. Et alors, dans la presse, on lit des choses absolument insensées qui aujourd'hui nous paraissent complètement ridicules. On se dit, mais comment les Français de l'époque ont-ils pu croire en ces bobards ?
Alors la désinformation, il ne faut pas imaginer qu'elle est présente au même niveau tout au long du conflit. Elle est très importante au début, puisque ce qu'on appelle la guerre de mouvement, les opérations militaires se succèdent à un rythme important, et donc les populations ne sont pas très bien informées, il y a une pénurie d'informations, et on peut imaginer, peut-être croire ce qui est inscrit dans les journaux. À partir du moment où les troupes se mettent à construire des tranchées, et là on ne peut plus faire croire que la victoire est pour le lendemain. Donc évidemment, il faut bien avoir ça à l'esprit. Mais bien sûr, vous l'avez dit, on trouve des choses complètement incroyables dans les journaux. On peut peut-être citer notamment des extraits pour vous donner une idée un petit peu de ce qui se dit à travers les journaux de l'époque.
Alors Jean-Charles, est-ce que vous avez quelques justement citations de cette presse de l'époque incroyable ?
J'ai sélectionné quelques passages, notamment... un extrait de l'Intransigeant le 17 août 1914. Les balles allemandes ne sont pas dangereuses. Elles traversent les chairs de part en part sans faire aucune déchirure.
Bon, oui.
Il suffit de connaître un peu le maniement des armes pour mettre en doute cette affirmation. Et pourtant, on peut imaginer qu'une partie de la population y croit. Ou alors a envie d'y croire plutôt pour s'imaginer que les personnes qu'elle, de leurs familles qui sont au front ne risquent rien peut-être aussi.
Et d'ailleurs, ça va un peu dans le sens de ce que vous avez lu, c'est dans le quotidien Le Matin du mardi 15 septembre 1914, on peut lire « Leur artillerie lourde et commeux, donc les Allemands, elle n'est que bluff. » Et alors, un peu plus loin, « Leurs projectiles sont très curieux puisque à les voir tomber et à les entendre, ils sont terriblement impressionnants. Ils ont très peu d'efficacité, ils vous font simplement des bleus. »
Alors on est vraiment dans la désinformation totale. Hein.
Alors, il faut dire aussi que les journalistes n'ont pas le droit d'aller dans les tranchées, de monter au front. Il n'y a pas vraiment, aujourd'hui on le voit, il y a des journalistes courageux qui prennent des risques, bon, qui ont bien évidemment des autorisations, mais qui en fait relatent les faits de guerre. Là en 14-18, les journalistes ne montent pas au front, ils n'ont pas le droit dans un premier temps.
Alors il y a une improvisation totale au début du conflit où, par exemple, Albert Londres circule dans les premières semaines de la guerre parmi les premières lignes. Et il va même évoquer Reims en flammes.
Mais alors, parce qu'il a échappé à la censure, voilà. Là, justement,
et
Albert Londres.
Très, très rapidement, évidemment, l'état-major reprend les choses en main. Il est interdit aux journalistes, non seulement, bien sûr, d'être présent sur le front, mais dès le mois d'août 1914, une loi interdit, peut-être par rapport à ce que nous avons cité précédemment sur les souvenirs de 1870, mais il est interdit d'évoquer toute opération militaire par les journalistes, évidemment pour ne pas affoler la population, bien sûr, en cas de défaite, mais aussi pour éviter de revivre les douloureux souvenirs du passé.
Alors, il faut aussi avoir bien conscience, en fouillant les ouvrages d'histoire, Jean-Charles Gibault, c'est que la presse de l'époque tire à des millions d'exemplaires. Hein. Les grands quotidiens, disons, de la Belle Époque et du début de la guerre de 14, les titres sont donc Le Petit Parisien, Le Petit Journal, Le Journal, Le Matin. Bon, il y a l'Excelsior, il y a d'autres grands quotidiens. Mais il faut imaginer tout de même, ce sont des journaux qui se vendent à plus d'un million et demi d'exemplaires. C'est gigantesque au regard des tirages des quotidiens actuels dans notre pays.
Exactement, c'est des chiffres incroyables. La France, par son lectorat, est un des premiers pays, de lecteurs au monde. Et alors, si on veut comparer, par exemple, avec aujourd'hui, une chose qu'on retrouve sur nos fameux experts présents sur les plateaux de télévision pour raconter des choses avec les informations qu'ils n'ont pas, eh bien, c'est exactement la même chose à l'époque, puisqu'on a des experts militaires. Tous les journaux possèdent leur expert qui donne son avis en tant qu'ancien militaire. Ils n'ont aucune information, mais ils brodent, ils racontent un petit peu ce qu'ils ont envie, en faisant attention tout de même à la censure. Par exemple, vous avez cité le journal Le Matin, qui possède son expert, le général Bonal, alors lui, qui raconte que les soldats allemands sont harassés, qu'ils crèvent de faim, qu'ils sont sur le point de capituler dès les premiers jours de la guerre. Évidemment, tout cela est faux, il n'en sait rien. Mais il faut que la population garde le moral, que surtout ne pas être défaitiste. Et donc, ça permet de raconter toutes les inepties possibles. Donc, ces militaires experts, soi-disant experts, comme ceux d'aujourd'hui d'ailleurs sur nos plateaux de télé, eh bien, se donnent à cœur joie en donnant des informations qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne connaissent pas.
De plus, il y a une certaine présentation de l'Allemand qui est un vandale, un féroce, un cruel, un sanguinaire. Bref, c'est le Bosch dans toute son horreur. Et par exemple, le quotidien La Croix pose la question en première page, est-il vraiment comme nous ?
Alors l'idée ici, c'est de déshumaniser l'ennemi. Hein. Lorsque le soldat se retrouve face à son ennemi allemand, il ne doit pas hésiter une seconde avant de lui tirer dessus. Donc si on peut avoir affaire à une brute épaisse et s'imaginer que c'est un barbare en face de nous, c'est plus facile de tirer que si on imagine qu'il s'agit d'un homme comme les autres.
Et en plus, on lit des choses incroyablement grotesques, du genre le cadavre d'un Allemand qui pourrit sont plus mauvais que le cadavre d'un Français. C'est absolument incroyable.
N'oubliez pas que les rumeurs aussi sont légion, notamment la fameuse rumeur qui circule depuis l'invasion de la Belgique, comme quoi les Allemands couperaient la main des jeunes garçons, qui est parfois relayée même par les journaux, alors que c'est évidemment totalement faux, mais cela marque les esprits et parfois plus c'est gros et plus la population se laisse prendre.
Oui, c'est un peu le thème de Goebbels, plus le mensonge est gros, mieux il passe. Je voudrais, Jean-Charles, dans notre séquence, que nous écoutions là un document sonore. C'est le commandant Nusillard, alors responsable de la censure à l'état-major français, qui raconte son entrevue avec Georges Clemenceau, le commandant Nusia.
Il me fait venir, j'entre dans son bureau, je le trouve, il était avec un petit béret de chasseur alpin. Et alors, Clemenceau me dit, eh ben, commandant, je sais que vous avez l'oreille de la presse, me dit-il. Et qu'est-ce qu'on dit dans les... Ah, je lui dis, monsieur le président, alors, il ne m'appartient pas de répondre à une question pareille. Vous avez autour de vous toute une équipe de gens qui lisent les journaux aussi pour vous renseigner immédiatement. Moi, je n'ai pas d'opinion. Puis, j'ai vu qu'il allait enchaîner. Je lui dis, monsieur le président, étant donné la façon dont vous nous traitez à la censure depuis 3 ans, nous sommes bien convaincus, tous mes collaborateurs et moi, que vous allez la supprimer dès ce soir, n'est-ce pas? Alors ça, vous savez, moi qui n'ai plus de mémoire, je verrai toujours ça. Il était répandu dans son fauteuil, comme ça. Il s'est relevé, il s'est appuyé sur son bureau avec sa petite calotte, il m'a dit, moi, supprimer la censure, eh bien mon petit, vous allez voir ça.
Le témoignage du commandant Nusillard illustre bien le fossé total d'incompréhension qui règne à partir du moment où les troupes basées sur le front vont retourner en permission à l'arrière. Ils ne se reconnaissent pas du tout dans les journaux, ils ne reconnaissent pas l'image que l'on renvoie d'eux-mêmes. Et cette incompréhension est totale, notamment avec l'arrière qui justement suit ces nouvelles. Et finalement, les soldats très rapidement préfèrent se taire et ne pas revenir sur ce qui est dit dans les journaux. Les bobards font partie de leur quotidien, ils font avec, mais le fossé se creuse véritablement avec la presse.
Il faut ajouter aussi qu'au début de la guerre, les tirages des grands quotidiens sont extrêmement puissants, puisque bien sûr, on veut absolument des informations. Alors évidemment, on entretient le moral de la population civile qui a un fils, un père au combat. Il faut dire aussi que très vite, le prix du papier va augmenter, le prix aussi du numéro de vente va augmenter. Par exemple, le 1er septembre 1917, le prix moyen d'un journal passe de 5 à 10 centimes. Quoi. C'est tout de même...
L'inflation déjà.
Et oui, on retrouve effectivement des problématiques qui sont complètement actuelles. Et puis, on va revenir sur la presse, parce que Jean-Charles, cette presse qui s'est peut-être un petit peu déshonorée pendant la Première Guerre mondiale, et alors qui se déshonora encore plus sous l'occupation entre 40 et 44, une sorte de déshonneur un peu de la presse française.
Un déshonneur d'autant plus marqué que la presse britannique, elle, considère la liberté de la presse comme sacrée et ne va pas se fourvoyer dans ses mensonges et ses contre-vérités du quotidien. Donc c'est vrai que si l'on compare à nos alliés britanniques, c'est encore plus déshonorant.
Il est vrai qu'en France, il y avait eu ces lois votées sur la liberté de la presse, donc en 1881. Il y a eu aussi ce déchaînement de la presse autour de l'affaire Dreyfus, là aussi. Il fallait mettre un peu des limites. Nous marquons une petite limite musicale dans notre émission. Nous écoutons Choisi, lisons. Cet extrait d'un album de Tichot, Une vie de bonhomme, sorti en 2008 et qui est disponible d'ailleurs chez Universal Music France. Alors c'est vraiment l'invitation pour Lison de choisir un valeureux poilu, celui qui lui plaira mais qui saura l'aimer. Ça peut être un beau brun, un beau blond de l'Artois, de Champagne ou un gars du Nord aux yeux
ou
d'azur.
Ou un bourguignon peut-être.
Ou peut-être un bourguignon, tout à fait Jean-Charles. C'est Jean-Charles Gibault qui nous accompagne dans ce wagon livre spécial Grande Guerre. Nous nous retrouvons juste après la pause musicale et nous sommes ensemble jusqu'à midi, toujours sur Radion.
V'là les poilus. V'là les bonhommes, ceux de la fosse, de Pessy, ceux de Craonne. Choisis celui qui te plaira. Choisis, disons, et si tu l'aimes, il t'aimera. Quand au printemps la feuille pousse, un doux zéphyr vient nous charmer. Et de ses lois c'est la plus douce, qui dit au cœur il faut aimer. Si Cupidon frappe à la porte, belle Lison, ne rougis pas. C'est du bonheur qu'il nous apporte, sans un regret, tends-lui les bras. Un beau brin te plaît-il, en voilà.
C'est un blond que tu veux, il est là. V'là les poilus, pauvres soldats. Ceux de l'Isère, ceux de Lorette, ceux de l'Artois. Choisis celui qui te plaira. Choisis, disons, et si tu l'aimes, il t'aimera. As-tu rêvé d'être l'épouse d'un gars du Nord aux yeux d'azur? Veux-tu devenir l'Andalouse d'un montagnard basque aux pieds sûrs? Préfères-tu d'un franc gavroche le fin sourire et le bagout du défilé? Bien vite approche, tu trouveras selon ton goût. Un beau brun te plaît-il? En voilà. C'est un blond que tu veux, il est là. V'là les poilus, v'là les bonhommes. Ceux de Beaumont, ceux de Verdun, ceux de l'Argonne. Choisis celui qui te plaira. Choisis, disons, et si tu l'aimes, il t'aimera. Ils ont 100 fois risqué leur vie sous la mitraille sans émoi. Et de te voir toute jolie, ils sont timides devant toi. Si tu restais indifférente, au lison tu ne serais pas de cette race si vaillante qui donne de pareils soldats. Un beau brun te plaît-il? En voilà. C'est un blond que tu veux, il est là. V'là les poilus, v'là les bonhommes. Ceux de la Marne, ceux de Vimy, ceux de la Somme. Choisis celui qui te plaira. Choisis, disons, et si tu l'aimes, il t'aimera. Ceux de l'Isère, ceux de Verdun, ceux des Hurlus. Choisis celui qui te plaira. Choisis, disons, et si tu l'aimes, il t'aimera. V'là les poilus, v'là les bonhommes. Ceux de la Fosse, ceux de Pessy, ceux de Craonne. Choisis celui qui te plaira. Choisis, disons, et si tu l'aimes, il t'aimera.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Choisis, lisons. Jean-Charles Gibault. Alors, revenons à notre presse française pendant la Grande Guerre. Il y a un titre qui existe toujours aujourd'hui, que l'on trouve chaque mercredi dans les kiosques. C'est la naissance d'un hebdomadaire qui naît en 1915.
Alors, Le Canard Enchaîné, puisqu'il s'agit bien de cet hebdomadaire-là, va prendre le contre-pied complet de la presse de l'époque. Et va donc marquer les esprits encore plus. Je me permets, Yannick, si vous êtes d'accord, de lire l'éditorial du premier numéro du Canard Enchaîné, qui sort donc le 10 septembre 1915, et a parfaitement résumé la situation. Le Canard Enchaîné a décidé de rompre délibérément avec toutes les traditions journalistiques. Le Canard Enchaîné prendra la grande liberté de n'insérer, après minutieuse vérification, que des nouvelles rigoureusement inexactes. Chacun sait en effet que la presse française, sans exception, ne communique à ses lecteurs, depuis le début de la guerre, que des nouvelles implacablement vraies. Eh bien, le public en a assez. Le public veut des nouvelles fausses pour changer.
Alors, on sent bien l'ironie qui est vraiment le trait dominant de ce journal, donc créé par Maurice Maréchal dès 1915. Vous avez, Jean-Charles, précédemment évoqué le nom d'un journaliste qui, finalement, a un petit peu créé le journalisme reporter à la française, c'est Albert Londres. Alors, Albert Londres, il est mort déjà il y a maintenant 90 ans. Il est mort accidentellement sur un bateau qui avait pris feu et qui devait le ramener en Europe. Cet homme, Albert Londres, a été chroniqueur parlementaire. Alors, il a été réformé, donc il n'a pas été mobilisé. Mais effectivement, vous avez expliqué combien il avait réussi à tromper la censure et à raconter le bombardement de la cathédrale
un vrai journaliste.
De Reims. Oui, et il y a cette phrase connue d'Albert Londres, notre métier est de porter la plume dans la plaie. Alors lui voulait effectivement raconter la réalité des combats, on l'a très vite muselé.
C'est exactement ce que l'on ne veut pas. Donc malheureusement, Albert Londres se heurte à un mur face à l'état-major. L'idée est plutôt de minimiser les défaites et d'amplifier les victoires, ce qui ne correspond pas au journalisme selon Albert Londres.
Alors, on a parlé de l'expression « bourrage de crâne ». Alors, certains disent que l'expression a été inventée par les soldats dans les tranchées. D'autres disent que c'est Albert Londres qui aurait créé l'expression « bourrage de crâne ». Je ne sais pas si vous avez une information plus précise que la mienne.
Malheureusement, non, je n'ai pas d'information plus précise. C'est vrai que on ne sait pas exactement d'où vient l'expression, mais en tout cas, elle est très marquante et elle correspond bien à la réalité.
Alors, ce qui est intéressant aussi concernant le bourrage de crâne, c'est que je vais vous en lire la définition par Marcel Proust, qui obtiendra le prix Goncourt en 1919, ce qui avait un petit peu surpris, parce qu'on aurait préféré que le Goncourt récompense un écrivain combattant. Mais voici ce que Marcel Proust écrit dans Le Temps retrouvé par rapport au bourrage de crâne. Le bourrage de crâne est un mot vide de sens. Eût-on dit aux Français qu'ils allaient être battus, qu'aucun Français ne se fût plus désespéré que si on lui avait dit qu'il allait être tué par les Bertas. Le véritable bourrage de crâne, on se le fait à soi-même par l'espérance, qui est une forme de l'instinct de conservation d'une nation, si l'on est vraiment membre vivant de cette nation. Bon, un point de vue de Marcel Proust, grande actualité de Marcel Proust, hein, dont on commémore cette année le 100e anniversaire de la mort, ce sera le 18 novembre prochain, précisément. Et puis Jean-Charles, alors là aussi, c'est un aspect très intéressant de la presse, c'est qu'il y a des journaux de poilus qui sont aussi créés par des poilus eux-mêmes qui sont exaspérés par ce qu'ils lisent dans la presse, j'allais dire, traditionnelle et largement répandue dans le pays.
Une volonté sans doute de rétablir la vérité du front, la vérité du soldat qui, on l'a dit tout à l'heure, subit l'incompréhension de l'arrière, subit l'incompréhension des familles, et qui a envie peut-être de signaler et transmettre peut-être pour la suite, pour le futur, la réalité de ce qu'a été cette guerre qui a quand même été une guerre affreusement meurtrière et qui a placé les hommes, les soldats dans des conditions terribles pendant 4 années.
Et puis Jean-Charles, la censure s'exerce aussi sur la correspondance, le courrier que les soldats envoient à leur famille. Et là, Anastasie découpe, elle est redoutable.
La censure est partout et les soldats sont donc dans une situation compliquée. Ils ne peuvent pas s'exprimer du fait de leur statut de soldat. Ils ne peuvent pas non plus transmettre l'information à leur famille. Donc, il est très difficile pour eux de s'épancher, d'où une camaraderie encore plus importante entre eux, puisqu'ils ils sont libres de s'exprimer quand ils se retrouvent entre soldats. Et donc les liens sont d'autant plus forts.
Concernant les journaux de poilus, on considère, alors ils apparaissent dès la fin de l'année 1914. Il y a 500 titres qui verront le jour. Alors le point commun entre ces journaux de tranchées, c'est leur irrégularité de parution, bien évidemment, mais surtout c'est l'humour. Alors j'en donne quelques titres de ces journaux de tranchées. Le poilu sans poil, la saucisse, le rat à poil, l'écho des marmites, la guerre joviale. Poil de tranchée. Alors, il y a l'antiseptique, c'est l'organe des brancardiers et infirmiers de la 39e division d'infanterie, mais on trouve aussi le gafouilleur, la fourragère, le petit écho du 18e territorial, le poilu marmité et également la roulante. Et je voudrais, Jean-Charles, mentionner qu'on peut trouver des. Alors, c'est superbement reproduit, ces dessins de presse issus des journaux de tranchées dans Journaux de poilus. C'est une publication de Géo Histoire d'il y a quelques années et qui, à mon avis, est absolument passionnant pour les passionnés comme vous, mais aussi pour celles et ceux qui s'intéressent à la caricature, parce qu'on On aurait pu aussi parler de quelle manière les illustrés français représentent alors soit l'empereur allemand ou le soldat Bosch. Là aussi, la caricature est absolument remarquable.
Elle est présente dans de nombreux quotidiens. On pense au Petit Journal aussi, bien sûr. Et c'est vrai que l'image aussi a sa place, a toute sa place.
Et elle est surveillée aussi, l'image.
Elle est très surveillée, évidemment. Et on incite, bien entendu, à grossir le trait sur l'ennemi allemand, évidemment, si on peut... Encore une fois, le déshumaniser par un dessin bien opportun, on n'hésite pas.
Je voudrais renvoyer à celles et ceux qui veulent approfondir le sujet de la censure, l'ouvrage de Olivier Forcade chez Fayard intitulé « La censure en France pendant la Grande Guerre ». Cher Jean-Charles, on va marquer une nouvelle pause musicale. On écoute « Fleurs des tranchées », toujours extrait de l'album « Une vie de bonhomme » de Tichot. Et puis après cette pause musicale, nous revenons avec notre invité pour évoquer la condition des prisonniers durant cette première guerre de 14-18.
J'ai cueilli pour vous, proche ma tranchée, des pervenches bleues, gage d'amour pur qu'Avril fait renaître. Et en les cueillant, j'ai cru reconnaître l'éclat de vos yeux, pareil à l'azur. J'ai cueilli pour vous, proche ma tranchée, des pervenches bleues, gage d'amour pur. Quand reviendra mes, ô ma tendre amie, je vous enverrai du muguet tout blanc cueilli dans les Flandres. Et dans ces grands bois où depuis novembre nous luttons pour vous, gais et confiants.
Une émission sur la Grande Guerre en cette fin de matinée sur Radion au lendemain des commémorations du 11 novembre 1918. Alors Jean-Charles Juibaud nous accompagne, je rappelle qu'il est scénariste de bande dessinée historique avec son ami illustrateur Ilker Caliscan et il nous réserve au mois de mai 2023 une nouvelle bande dessinée qui racontera la vie du maquis Camille dans le Morvan. Ça, c'est une commande, d'une institution, en fait.
C'est un travail réalisé en partenariat avec le musée de la Résistance de Saint-Brisson, qui fêtera ses 40 ans, d'ailleurs, au mois de juin 2023. Donc, c'est une belle manière de célébrer cet anniversaire avec cette bande dessinée qui, je pense, intéressera les amateurs de bande dessinée d'abord, bien sûr, mais aussi peut-être le grand public passionné par le Morvan, par son histoire, on l'espère en tout cas.
Et puis toujours disponible aux éditions Yil, donc la trilogie Vindicta de Ilker Caliscan et Jean-Charles Gibault sur la bataille d'Alésia 52 avant Jésus-Christ. Mais en cette fin de matinée, cher Jean-Charles, nous revenons sur cette guerre de 14-18 et vous m'avez soufflé effectivement un thème concernant des hommes qui sont les grands oubliés de cette grande guerre, à savoir les prisonniers. Alors, c'est l'occasion de peut-être combien d'hommes ont été prisonniers, dans quelles conditions, parce qu'il y a eu aussi, il y avait des prisonniers civils, il y avait des prisonniers combattants, et justement, il y a un film qui en parle beaucoup, c'est un film de Jean Renoir en 1937, qui s'intitule « La grande illusion », et je vous propose tout de suite d'en entendre la bande-annonce. Je rappelle que c'est un film dans lequel on retrouve Jean Gabin, Éric Von Ström, Pierre Freinet dans les rôles principaux. La bande-annonce de « La grande illusion ».
Commandant Kraul, je vous appelle, je vous êtes ici sous l'autorité des lois allemandes. En cas de tentation d'évasion, les sentinelles ont ordre de tirer sur tout officier surpris en dehors des limites.
D'un côté des enfants qui jouent aux soldats, et de l'autre des soldats qui jouent comme des enfants. Un terrain de golf, à jouer au golf. Un camp de prisonniers, ça sert à s'évader.
Je suis désolé de vous voir ici.
À vous dire, ça vous pince.
Ce qui pince, mon vieux, c'est pas la musique, c'est pas les instruments. C'est le bruit des pas.
dire?
Français. Franzosi. Verstehen?
Alors, Jean-Charles Gibault, ce film La Grande Illusion, sorti sur les écrans en 1937, soit quand même presque 20 ans après la fin de la guerre, montre les conditions de soldats français avec des différences sociales. Il y a l'officier, il y a le sergent, et puis il y a les hommes de la troupe dans une structure militaire allemande où la discipline est forte. C'est un film qui est vraiment axé sur la vérité. Il est fiable dans ce qu'il montre.
Alors d'abord, c'est une évidence de le dire, mais c'est un des plus beaux films sur la Grande Guerre jamais réalisé. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut évidemment préciser que Jean Renoir s'est appuyé volontairement, sans doute peut-être la raison pour laquelle il est sorti si longtemps après la Grande Guerre, c'est parce qu'il s'appuie sur les témoignages de prisonniers et donc il tend à joindre la vérité. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui... Alors, on sait que de nombreux poilus avaient du mal à évoquer en rentrant après la guerre cette période. Les prisonniers, c'est encore pire, puisque pour ces soldats faits prisonniers, il y a une forme de culpabilité très importante. Et ils ont du mal à évoquer cette période, et donc Jean Renoir va s'appuyer sur les témoignages. Mais il va falloir trouver les prisonniers qui acceptent de témoigner de ces conditions de vie dans les camps, qui sont effectivement des conditions de vie difficiles et très réglementées. On trouve, vous l'avez dit, des camps à la fois d'officiers, hein, les fameux Oflag et Stalag, hein, qu'on retrouvera aussi pour la guerre suivante, la Seconde Guerre mondiale, mais vous l'avez dit, des otages, des anciens otages qui avaient été faits prisonniers lors de l'invasion du nord de la France et de la Belgique, qui vont donc passer de nombreuses années emprisonnés comme cela dans les 120 camps d'internement allemands.
Alors, ce sont les oubliés de la Grande Guerre. Peut-être qu'au moment de l'armistice, ceux qui ont été le plus soulagés et le plus valorisés, ce furent les combattants et non les prisonniers.
Les récits des prisonniers ne font pas le poids face aux récits héroïques des anciens combattants. D'ailleurs, ils sont très très mal accueillis, puisque je tiens à signaler que Joffre, en novembre 1918, impose un ordre général où on demande à ce que tous les prisonniers, dès leur retour, doivent être entendus et doivent préciser les conditions de leur capture. Il y a un soupçon très fort qui pèse sur eux, sous-entendu évidemment la désertion, sous-entendu l'absence de courage. Et donc, on peut imaginer que l'accueil n'est pas à la hauteur de ce qu'attendaient les prisonniers.
Alors, il y a un de nos présidents de la République, militaire, grande carrière militaire, qui fut prisonnier pendant la Première Guerre mondiale. On l'oublie peut-être un peu.
Son prestige de la Seconde Guerre mondiale efface un petit peu sa carrière de capitaine de Gaulle pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il s'agit bien sûr du général de Gaulle, qui est capitaine pendant la Première Guerre mondiale et qui va être fait prisonnier en mars 1916 à Verdun, devant le village de Douaumont. Eh bien, il est fait prisonnier et il va donc subir un internement qui va être très 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 difficile à supporter pour lui, à l'image de ses camarades officiers. Il va tenter de s'évader 5 fois, il va donc faire plusieurs camps, et la volonté de s'évader fait partie pour lui de son
devoir.
Voilà, c'est un devoir. Il souhaite s'évader. D'ailleurs, il ne parle que de ça. Hein. Si on se réfère à ses courriers envoyés à sa famille à l'époque et par les conversations qu'il a avec ses camarades, il ne parle que d'évasion. Et il va donc tenter à 5 reprises. Malheureusement, ce sera un échec. Mais le capitaine de Gaulle symbolise bien justement ces prisonniers qui vont tout tenter pour s'enfuir de ces camps d'internement.
Et d'ailleurs, dans La Grande Illusion, il y a aussi, d'ailleurs on l'a entendu dans la bande-annonce, l'officier qui dit à quoi sert un terrain de golf à jouer au golf, à quoi sert un camp de prisonniers à s'évader. Finalement, les évasions sont peu possibles.
Très rarement.
Et les conditions de vie sont quand même... d'un camp à l'autre, assez variable. Se pose aussi le problème d'une réglementation internationale, d'accords internationaux sur les statuts, conditions, droits des prisonniers. Il faut attendre, je crois, le lendemain de la Première Guerre mondiale, les années 20, 25, 29, pour qu'on... Enfin, il faut attendre la SDN, d'une certaine
alors,
manière.
Alors, il existe quand même, malgré tout, la Convention de Genève de 1906. Hein, donc, la Croix-Rouge fréquente les camps, se rend dans les camps, les visite. Alors, évidemment, on imagine que la mise en scène est prévue d'avance. Mais vous avez raison de le signaler, on ne vit pas pareil dans un camp si on est français et si on est russe. Les Russes meurent de faim dans les camps de prisonniers allemands, c'est des conditions terribles. Les Français ont une vie... pas forcément simple, évidemment, mais n'oublions pas que l'Allemagne est sous blocus. Ça veut dire que certains officiers français vivent mieux et mangent mieux que leurs propres geôliers. Donc ça, c'est quand même une caractéristique assez surprenante. Les Français ont la possibilité de recevoir des colis de leur famille. D'ailleurs, dans La Grande Illusion, on assiste parfois à nombreuses scènes où ils ouvrent les colis et ils se nourrissent de mets bien français, pendant que leurs geôliers allemands, eux, se contentent du minimum. Des colis des familles, des colis d'État et bien sûr de la Croix-Rouge. Hein, donc, il ne faut pas l'oublier.
Il faut dire aussi que ces prisonniers, ils sont parfois à des milliers de kilomètres des zones de front. Hein. On en trouve en Allemagne, mais il y a eu des prisonniers français en Turquie, en Bulgarie également.
On parle à peu près de 4 millions de prisonniers hein, sur l'ensemble de la guerre. Les Allemands ont le plus gros contingent puisqu'ils se battent sur deux fronts. Mais c'est vrai qu'ils sont très nombreux, stationnés dans différents camps à peu près partout en Europe. Et vous l'avez dit... ils vont être parfois aussi intégrés à la population, ce qui va d'autant plus renforcer le sentiment de culpabilité des prisonniers, puisque non seulement ils sont éloignés de leurs camarades, non seulement ils ne participent pas au combat, ou ne participent plus au combat, mais ils vont même renforcer l'ennemi, comment ? En travaillant dans les usines, évidemment, d'armement par exemple, ou aussi en participant aux travaux agricoles. Donc c'est une culpabilité double pour ces prisonniers.
Alors je précise qu'au lendemain de la Grande Guerre est créée une médaille des prisonniers civils déportés et otages, et puis qu'il y a depuis 1928 dans le cimetière des prisonniers de guerre de Sarrebourg une sculpture qui a été réalisée en Allemagne par un soldat français captif. Elle s'intitule, cette sculpture, Le Géant, et elle rend hommage à tous les prisonniers de la Première Guerre mondiale. Y a-t-il d'autres informations à glisser sur les conditions des prisonniers, Jean-Charles Gibault ?
Alors, les conditions d'internement difficiles, on l'a dit, les colis qui arrivent parfois et parfois n'arrivent pas, donc on imagine le sentiment d'abandon aussi double de ces prisonniers qui se disent que leur famille les a oubliés. On a parlé tout à l'heure de cette culpabilité aussi de travailler pour l'ennemi. Et donc de cette médaille, vous l'avez dit, le capitaine de Gaulle mettra 3 mois pour la demander. Hein, donc il va la demander quasiment tout de suite, la médaille des évadés aussi en 1926. Pour l'honneur, bien sûr, c'est important de montrer qu'on a été malgré tout un bon soldat pendant cette captivité.
Il faut dire aussi que les soldats prisonniers allemands, eux, sont rentrés parfois très très tard. Hein. Il a fallu attendre que les clauses de l'armistice soient mises en place. Et c'est ceux, bien sûr, les vaincus qui en ont le plus
pâti. Effectivement, ils ont un sort terrible puisque au lendemain de l'armistice, les prisonniers français reviennent très rapidement. La clause 10 de l'armistice du 11 novembre stipule que les prisonniers autrichiens et allemands devront attendre les signatures du traité de paix qui interviendra en juin 19. Et certains attendront même le début de l'année 1920 pour rentrer. On a besoin d'eux. Pourquoi ? Deux choses. Déminer les nombreux champs et nombreux territoires français qui ont subi les mines. Et aussi la reconstruction du nord de la France. Ce sont les Allemands, les prisonniers allemands qui seront en priorité envoyés dans le nord de la France pour reconstruire ce qu'ils ont détruit. Donc en quelque sorte, Clémenceau en tête, ainsi que tous les plénipotentiaires français, considèrent qu'il est juste et justifié de les garder sous la main pour les faire panser les plaies et on puisse dissimuler les cicatrices de cette grande guerre.
Merci cher Jean-Charles Gibault d'avoir été aujourd'hui dans ce wagon livre consacré à la Grande Guerre et à certains aspects justement de cette guerre de 14-18 qu'on n'aborde pas systématiquement, en tout cas pas systématiquement à l'école, faute de temps bien sûr. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation, peut-être à l'année prochaine.
À l'année prochaine, j'espère, pour parler des Maquis du Morvan et de cette bande dessinée que nous découvrirons avec le public courant mai 2023. Cette BD donc sur l'histoire du maquis Camille, maquis Morvandio.
Exactement, un maquis parmi nombreux maquis dans le Morvan. On a choisi le maquis Camille, on aurait pu en choisir d'autres, mais c'est vrai que l'histoire des maquisards du Morvan est une histoire intense et qui mérite aussi d'être mise en avant. J'espère que le public sera au rendez-vous.
À suivre donc. Et puis je rappelle que si vous avez manqué cette émission, vous la retrouvez en podcast sur le site d'archives de Wagon Livre, yannickpetit.fr. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Merci encore Jean-Charles Gibault. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Au revoir.